back to life.
She got to leave it smooth, easy, back to life.
I got to leave it smooth, easy, back to life.
She got to leave it smooth, easy, back to life.
Just take a look at my life, you realize I've been living in a golden jail for too long. Blinded by the glitters, I couldn't find a way to my soul. Like a diamond in the rough, I was full of mud and blood suckers. She got to leave it smooth, easy.
She got to leave it smooth, easy, back to life.
I got to leave it smooth.
She got to leave it
easy. I got to leave it
smooth, easy, back to life.
Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver dans Zoom Écologie, troisième jeudi sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour une nouvelle année à parler et à débattre d'écologie au sens large. Vous nous écoutez en direct et je suis accompagnée pendant une heure par mon co-animateur Alex.
Bonsoir.
Et notre nouvelle recrue, Nico, qui nous rejoint en cabine.
Bonsoir.
Alors, pour cette émission de rentrée, nous avons eu envie d'inviter Siméon, qui est parti 14 mois avec Alexandre pour un road trip à vélo autour du monde. Ils sont revenus avec un film documentaire réalisé dans le but de comprendre et de partager une autre vision de l'écologie. Ils nous en parleront dans la deuxième partie de cette émission.
Avec plaisir.
Comme d'habitude, vers 21h, pardon, nous aurons une pause musicale avec Alex. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, ce sera Midnight Color. C'est une belle rencontre entre Nelly, qui est une chanteuse camerounaise, et un pianiste normand. Donc c'est pas commun, mais ils sont à Paris et avec nous.
Super, on a hâte d'écouter tout ça. Alors pour commencer, nous recevons Olivier Razemont, Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste indépendant, vous écrivez notamment pour Le Monde, où vous tenez un blog intitulé « L'interconnexion n'est plus assurée ». Vous êtes un spécialiste des questions de mobilité, de la ville et des modes de vie. Vous avez notamment publié un livre sur ces questions, « Le pouvoir de la pédale », qui s'est vendu à 4000 exemplaires. Vous revenez pour cette rentrée avec un nouvel ouvrage au titre fort « Comment la France a tué ses villes », publié aux éditions de l'Échiquier, qui sort le 13 octobre prochain.
C'est bien ça ? En fait, c'est les éditions rue de l'Échiquier.
Ah, pardon. Il m'a manqué un petit bout, en effet.
C'est pas grave.
Alors, dans ce livre, vous vous intéressez à la question de la dévitalisation des villes françaises, Béziers, Saint-Étienne, Périgueux, partout le même constat, des centres-villes vides, des façades de commerce fermées, des logements vacants. Et ce constat est là, un peu la phase immergée d'une situation inquiétante qui dit autre chose hein, sur la façon dont on pense et on construit les territoires. Alors pour commencer, j'aimerais revenir un peu sur la genèse de ce livre. À quel moment vous avez commencé son écriture? Est-ce que c'est parti d'un déclic? Et si oui, dans quelle ville?
Non, c'est pas nécessairement parti d'un déclic. C'est un sujet en fait que je suis depuis déjà pas mal de temps, depuis le livre encore d'avant, qui parlait d'étalement urbain, qui s'appelait La tentation du bitume. Et on avait constaté avec mon co-auteur cette dévitalisation des centres-villes, à la fois les commerces vides, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Pas à Paris, hein, pas dans les grandes villes, là on le voit pas trop, on se demande de quoi il parle, etc. Mais par contre dans les petites villes, les moyennes villes en province, c'est très très frappant, c'est quelque chose que tout le monde sait, alors à Saint-Dizier, à Saint-Brieuc, à Montauban, etc. J'avais constaté, et j'ai eu l'occasion, parce que précisément j'ai fait ce bouquin sur le vélo et j'ai fait une très grande tournée, d'ailleurs c'est pas fini encore, j'ai fait une cinquantaine de rencontres publiques dans plein de villes différentes, souvent des petites et des moyennes, et donc j'ai eu l'occasion de constater que c'était partout la même chose en fait, c'est toujours la même chose. Il y a ces vitrines vides qui est vraiment le symptôme le plus frappant. On voit partout des anciennes boulangeries, des anciennes boucheries, des commerces qui ont été repris, qui sont maintenant des ongleries, puis en fait l'onglerie a fermé, les tatouages, le commerce est en train de changer aussi, maintenant il y a de plus en plus un peu de superflu dans le centre des villes, c'est un peu le lieu de la nouvelle chance, alors il y a des blanchiments des dents, de la vente de produits qui permettent de pour les sportifs, enfin etc. Bien sûr il y a des fast-food et ça, et c'est vrai que comme ça absolument partout, que la ville soit... Alors, on pense, d'abord, souvent, localement, on pense que c'est seulement chez nous. Ah bah oui, mais vous comprenez, chez nous, à Abbeville, voilà. Bon. Et en fait, non, c'est partout. Et c'est partout, non seulement dans les villes où la situation économique n'est pas évidente, à Mulhouse, à Perpignan, à Roubaix, où on sait depuis longtemps, depuis de longues décennies, que les villes ne marchent pas très bien. Mais c'est vrai aussi dans les villes tout à fait prospères. Il y a Rodez. Rodez, c'est une ville, c'est la préfecture de l'Aveyron. Et c'est une ville où le taux de chômage est relativement faible. L'Aveyron, c'est un département qui marche bien. Il y a Vitré comme ça. Vitré, c'est à l'est de Rennes. C'est à chaque fois qu'on parle du plein emploi, on met Vitré en avant. Regardez la Vitré, il y a le plein emploi. Etc. Sauf que ces villes-là, elles aussi, elles sont touchées par ce phénomène. Donc évidemment, c'est la première, c'est la face émergée. C'est-à-dire qu'on voit ça. Et en fait, quand je me suis penché sur le sujet au fur et à mesure, j'avais déjà des intuitions, évidemment. J'ai constaté que c'était pas juste une histoire de commerce en difficulté, mais que c'était vraiment une question de forme de la ville qui était en train de se dévitaliser.
Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène nouveau? L'impression que c'est
alors,
quelque chose
c'est
qui...
un phénomène qui s'accélère. C'est pas un phénomène complètement nouveau. On appelle ça, alors aux États-Unis, il y a le phénomène des shrinking cities. On a ce phénomène-là en France aussi depuis au moins les années 70. Mais par contre, ça s'accélère d'année en année. Et aujourd'hui, ça concerne vraiment pratiquement toutes les villes de cette taille-là, c'est-à-dire en dessous de...
Comment on sait que ça s'accélère? Il y a des statistiques qui sont faites?
Il y a des statistiques. Il y a en fait un institut, enfin une fédération tout simplement des grandes enseignes qui essayent de savoir à quels endroits il est intéressant de s'installer dans une ville et qui observe ce phénomène, qui tout simplement va faire des relevés dans les villes, regarde, les vitrines sont vides ou pas vides, etc. Les magasins sont en forme ou pas en forme. Et le taux de vacances commerciales, c'est-à-dire la proportion de magasins vides dans un territoire donné, dans un périmètre donné, qui est souvent un périmètre assez petit dans les centres-villes, il augmente d'année en année. Il atteint plus de 10% cette année dans la plupart des villes de France, enfin dans la moyenne des villes de France. Ça peut paraître pas beaucoup, 10% un commerce sur 10, mais d'abord, c'est d'abord uniquement dans le centre-ville, ce constat-là. Et puis en plus, il y a des villes où c'est beaucoup plus.
C'est une moyenne.
C'est évidemment une moyenne. Et puis quand on voit le linéaire commercial, comme disent les spécialistes, de commerce les uns à côté des autres qui sont fermés dans certaines rues, ça fait vraiment peur, quoi.
Alors comment on explique tout ça pour vous? C'est quoi les principales raisons? Vous parlez notamment de l'importance des centres commerciaux en périphérie qui vont tirer un peu les emplois de proximité. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce phénomène-là?
C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, évidemment, ces vitrines, ces commerces ferment parce qu'elles subissent une concurrence massive, effrénée, volontaire des zones commerciales périphériques qui sont extrêmement puissantes, qui continuent de s'installer. C'est l'étalement urbain qui se poursuit. On continue aujourd'hui encore, en septembre 2016, c'est pas arrêté, on continue à construire. On le connaît en Ile-de-France avec le futur projet Europa City qui veut se mettre près de Roissy, etc. On continue à faire des zones commerciales périphériques ou des centres commerciaux périphériques, commerciaux et autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en périphérie, dans toutes ces villes, tellement urbain, c'est pas seulement en Île-de-France, dans toutes les villes autour de Moulins, autour de d'Agen, etc., il y a 3-4 zones commerciales différentes avec absolument tout, des hôtels, des piscines, la maternité, Pôle emploi, c'est pas juste voilà, et donc ça c'est une chose, et puis évidemment il y a les commerces qui ferment, puis il y a tout le reste, non seulement les commerces ferment mais les logements sont souvent vacants dans toutes ces villes, on a toujours ce leitmotiv permanent de tous les gouvernements depuis 15 ans qui dit ah bah oui il manque 500 000 logements, il y a une crise de logement. La crise du logement elle est pas dans les villes moyennes. Elle est dans les zones tendues, elle est en Île-de-France en certains endroits, pas partout non plus. Elle est dans les grandes métropoles, elle est parfois dans la périphérie des villes, et un peu autour, à quelques kilomètres, mais elle n'est pas au centre de Périgueux, elle n'est pas au centre de Saint-Étienne. Voilà. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est la paupérisation progressive toutes ces villes, de tous ces centres-villes. Alors, il y a les centres, et puis il y a tout simplement les villes elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les riches de l'agglomération d'Albi, ils habitent moins à Albi, mais ils habitent davantage à Puy-Gouzon, qui est une commune de quelques milliers d'habitants qui est juste à côté. C'est pareil à Orléans, c'est pareil à Niort, etc. Donc, on a en fait une sorte de dissolution tout simplement de la ville existante, de la ville ancienne qui est la ville du Moyen-Âge parfois, mais aussi qui a été la foire, qui a été la préfecture, bien sûr, qui est toujours la préfecture, qui est une petite ville universitaire, etc., qui est le centre, qui est la ville dont tout le monde connaît le nom parce que c'est la préfecture de tel département, et puis elle est en train de se dissoudre dans un ensemble beaucoup plus vaste en fait.
Ça vient aussi parfois du choix des habitants de vivre dans des zones pavillonnaires avec plus de place, un jardin, des choses comme ça, j'imagine aussi.
Alors c'est pas parfois, c'est-à-dire que tout le processus d'organisation du territoire depuis 50 ans s'est organisé vers l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'on a considéré... Alors, il y a dans toutes ces villes-là, parce qu'on n'est pas... c'est pas des villes aussi denses que Paris ou que Lyon. Hein. Dans toutes ces villes-là, il y a dans le centre-ville des maisons avec jardin et des appartements très vastes pour des prix relativement corrects. Enfin, un peu... C'est pas non plus... voilà. Mais par contre, effectivement, le processus, partout, il est équivalent. C'est celui d'aller plus loin pour avoir plus d'espace, mais c'est vrai pour l'habitat, mais c'est vrai avant tout pour tout le reste. C'est vrai avant tout pour le commerce, bien sûr, mais c'est aussi vrai pour les emplois, pour les entreprises. Quand La Roche-sur-Yon dit on va accueillir des nouveaux emplois et voilà, on va créer des nouveaux emplois, c'est très rarement des emplois de centre-ville. C'est très souvent, on va créer une nouvelle zone d'artisanat à 7 ou 8 kilomètres du centre-ville. Donc c'est un processus. Et pourquoi on fait ça ? C'est pas... Bien sûr que ça profite aux bétonneurs, bien sûr que ça profite à l'automobile, bien sûr que ça profite au pétrole, mais ça, c'est tout simplement la chose qui semble être la plus simple à faire. On pense que, ah oui, c'est bien, de toute façon, le territoire en profite, c'est très bien. Quand vous voyez des maires des villes moyennes, ils disent, ah ben, mon territoire, alors ils disent mon territoire, parce que c'est devenu leur, puisqu'ils ont été élus, n'est-ce pas ? Et ils disent, voilà, grâce à ça, on va créer de l'emploi. Et ils ne se rendent pas compte qu'en créant comme ça de l'emploi dans la commune périphérique qui est juste à côté de... voilà, ils sont en train, en fait, de détruire de l'emploi dans le centre-ville, parce que non seulement les commerces, mais aussi les emplois du centre-ville, au contraire, disparaissent.
Alors, vous avez parlé de la voiture. Vous, c'est un de vos sujets de prédilection aussi. C'est le lien entre les modes de vie, les modes de déplacement. Dans ce cas, est-ce que la voiture individuelle est aussi le coupable ?
Alors, j'ai pas encore parlé de la voiture, justement. Oui. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, non, oui, bien sûr.
Parler de pétrole.
Oui, j'ai parlé de pétrole, oui. Effectivement, oui. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi j'observe ça, et j'ai observé ça dans les villes, et effectivement, en allant parler de vélo dans toutes les villes de France, enfin dans toutes les villes non, mais enfin dans beaucoup de villes de France, je me suis rendu compte, parce qu'en me déplaçant dans les villes à pied et à vélo moi-même, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'une des raisons pour laquelle on pouvait aller plus loin, les gens ils disent ça, à Soissons, on vous dit, ah mais non, mais c'est normal, les gens ils vont plus dans le centre, ils vont dans la zone, là, les portes de Soissons, qui est à 5 minutes, comme on dit, voilà. Et ils vont pas, les gens, ils conduisent tout simplement. Donc c'est effectivement les politiques du tout voiture qui sont, c'est pas la voiture seulement, voilà, c'est pas tous les gens qui ont des voitures qui sont responsables, mais c'est les politiques du tout voiture qui sont, contrairement à ce qu'on croit, toujours en train d'être faite. On continue à faire ça, on continue à construire des rocades. Le gouvernement vient de lancer un nouveau plan autoroutier et les régions, beaucoup de régions les approuvent. On continue à faire ça, on continue à dessiner l'espace uniquement pour la voiture individuelle. Donc c'est pas étonnant qu'effectivement, au bout d'un moment, les déplacements se font que comme ça. La majeure, grande, très très large majorité des déplacements se font comme ça. Et bien sûr, quand on dit ah bah oui, mais non, mais les gens ils préfèrent aller à la zone commerciale du Mans parce que c'est moins cher, allez, non, ils prennent leur voiture et donc du coup, voilà, après ils disent ah ben on peut plus stationner en centre-ville. Mais si on a appris à tout faire avec la voiture, c'est sûr qu'on n'apprend pas à se déshabituer et à se dire bah tiens, moi je pourrais peut-être marcher 500 mètres pour aller à la boulangerie.
Alors, la responsabilité des pouvoirs publics, elle est où exactement? Parce que dans votre livre, vous dites que si ils sont omnubilés par l'urgence climatique, la voiture propre, donc on se focalise pas sur les bons problèmes et la question de l'aménagement du territoire, elle est aussi en question.
Oui, alors cette histoire de voiture propre, non, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de transport, là, le lien, il est ce que je fais dans ce bouquin et ce que j'essaye de faire de manière générale, c'est faire le lien entre transport et territoire. C'est deux sujets très importants. La question des transports, comment on se déplace, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on oublie un petit peu, qu'on a tendance à ne pas sur lequel on se focalise pas vraiment. Une fois que le déplacement est fait, on oublie pratiquement comment on l'a fait, on n'y pense pas, c'est pas un moment qui est valorisé généralement. Et puis l'organisation du territoire, qui est la manière dont on dispose des différents espaces. Et évidemment, tout ça est extrêmement lié. Et assez souvent, quand on s'intéresse au territoire, quand les gens qui suivent le territoire, qui sont des spécialistes, moi je suis pas un spécialiste, je suis journaliste, donc mais les gens qui ils voient pas trop l'aspect transport. On vous dit ah ben non, mais ça on va mettre cette zone commerciale, rassurez-vous, hein, c'est en entrée de ville. Ben bon, c'est où l'entrée de ville? C'est à combien de mètres? On peut y aller à pied? C'est quoi? Est-ce qu'on peut y aller à vélo? Est-ce que c'est un endroit où est-ce que c'est à nouveau une zone qu'on crée et qui est effectivement à 8 minutes quand il n'y a pas d'embouteillage de la place du marché? Donc voilà. Donc je pense qu'il y a je constate qu'il y a une relation très forte entre territoire et transport. Et donc évidemment, alors pour répondre à la question sur la responsabilité des pouvoirs publics, en fait, bien sûr qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics nationaux, européens, locaux, beaucoup locaux. Il y a toutes ces commissions départementales qui doivent dire ok, est-ce qu'on accepte le nouvel Auchan, le nouvel Leclerc, la nouvelle zone, etc. Et qui, dans 80% des cas, disent oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Bon, et dans ces commissions, il y a essentiellement des élus. Et puis, c'est aussi la pente la plus douce. C'est aussi, bien, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aussi finalement, ben voilà, c'est le plus simple. Donc il y a bien sûr une responsabilité des pouvoirs publics, mais avec l'assentiment de tout le monde, on est tous confrontés à ça. D'ailleurs, hein, la conclusion que j'ai écrite va dans ce sens. Finalement, c'est triste cette épicerie qui ferme, mais bon, là, il faut absolument, il est 19h30, on a absolument besoin d'une aromate pour mettre dans la tarte qu'on a faite, etc., ou qu'on va faire, donc il faut absolument la trouver, et donc on prend la voiture et on va au drive, etc., ou on va pas au drive, parce qu'il faudra avoir commandé avant, donc on va au Leclerc, etc. Donc il y a une sorte de... Il n'y a pas que les pouvoirs publics, et bien sûr qu'on a continué à faire ça, on s'est pas vraiment posé la question, cette histoire-là n'apparaît que maintenant, elle devient évidente aujourd'hui, mais on s'est pas vraiment posé la question. Donc bien sûr, les pouvoirs publics sont responsables, mais pas seulement.
Est-ce qu'il y a des villes qui échappent à cette tendance? Et si oui, qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour contourner ce phénomène que vous identifiez?
Alors, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, on me la posera plein de fois. C'est normal, c'est tout à fait normal. Le dernier chapitre, je l'ai appelé...
On a comment besoin d'optimisme.
Oui, je sais. Comment la France a tué ses villes, c'est vrai que c'est pas optimiste, mais en même temps, c'est la seule manière de faire comprendre qu'il y a un problème, parce que très souvent, il n'est encore pas forcément vu, ce problème. Et c'est un problème beaucoup plus vaste que juste les commerces, hein. C'est un problème vraiment d'identité de la ville, c'est les villes de France qui sont en train de se crever, quoi, tout simplement. Bon, et alors, est-ce qu'il y a des villes qui s'en sortent? Oui, pas vraiment parce qu'elles ont mis en place des trucs, juste par leur structure. Alors, il y a trois types de villes qui s'en sortent. Il y a les métropoles, tout simplement. Effectivement, le centre de Strasbourg, il est rayonnant, parfait, parfait. Il est agréable. Il est d'ailleurs pas parfait, parce qu'une ville, c'est jamais parfait. Une ville, c'est comme un corps humain. Des fois, ça sent pas bon. Mais en même temps, bah voilà, c'est une ville, c'est vivant. C'est, voilà, le centre de Strasbourg, c'est ça. Strasbourg, Toulouse, les grandes villes, et Paris aussi, Lyon. Bon, il y a une deuxième catégorie, c'est les ville touristique. Alors là, les Procos, le fameux taux de vacances commerciales, le voit très bien. Dans toutes les villes touristiques, notamment de bord de mer. Alors c'est vrai pour les grandes et les petites, c'est vrai pour Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Menton, les Sables-d'Olonne, etc. Et c'est vrai aussi pour des plus petites, je pense à des endroits un peu en Bretagne, à Saint-Ca ou Vissan dans le Pas-de-Calais, enfin des endroits tout petits, mais où il y a une activité touristique récurrente, donc l'été, mais aussi le week-end, qui fait que finalement des commerces peuvent tout à fait se permettre de ne pas avoir une clientèle régulière et ils ont, voilà. Et puis les commerces, et puis aussi, du coup, il y a les locations saisonnières et tout le reste. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est plutôt des bourgades, vraiment, qui sont au milieu du massif central ou des Alpes. Alors, je pense à Tendre, dans les Alpes-Maritimes, qui est au fond d'une vallée encaissée. Je pense à Dunières, en Haute-Loire, par exemple, à Saint-Céré, dans le Lot, qui est au bord du Lot, qui est, etc. Donc des bourgades de 2, 4, 5 000 habitants qui, en fait, résistent parce qu'elles n'ont pas encore, et vraiment le encore, il est important, de zones commerciales importantes à proximité. Et donc, elles arrivent à échapper à ça et elles ont effectivement un centre-ville qui reste encore assez... Enfin, une ville, parce qu'il y a pas, on parle du centre, mais il y a aussi tous ces quartiers anciens qui sont également concernés par la même chose. Et donc, ça, c'est la troisième catégorie. Et on ne peut pas dire qu'elles aient mis en place des mesures par leur structure, parce qu'il y a moins de zones commerciales à côté, ou parce que tout simplement il y a une grande densité, et qu'il y a aussi effectivement que beaucoup de déplacements ne se font pas en voiture. Dans le centre de Strasbourg, il y a 35% dans la ville de Strasbourg, 35% des foyers qui ne possèdent pas de voiture. Donc par définition, les gens se déplacent autrement, et donc beaucoup à pied et aussi beaucoup à vélo. Et donc du coup, ça modifie complètement la structure de la ville elle-même. C'est une des raisons.
Il y a des villes où il y a quand même une volonté politique, en dehors de ces aspects qui sont plutôt conjoncturels ou structurels, que vous disiez. Est-ce qu'il y a quand même des endroits où il y a une volonté politique d'essayer de conserver? Quelles sont les armes politiques pour essayer de conserver un centre?
Je vois la volonté, l'optimisme, mais il faut qu'il y ait déjà une prise de conscience, et ce n'est pas encore le cas.
C'est pas le cas.
Les élus qui veulent, je pense qu'il y a une mesure absolument indispensable aujourd'hui, c'est arrêter la construction des zones commerciales périphériques, des zones périphériques en général, donc arrêter l'étalement urbain, en fait. Je parle avec le maire de Lunéville. Lunéville, c'est à l'est de Nancy. Le maire, qui est député maire, me dit « Ah mais non, on a pris une nouvelle zone commerciale parce que comme ça, ça fait une complémentarité avec le centre-ville. » C'est une erreur absolue. Les gens ne vont pas aller, comme on dit, au centre commercial et puis ensuite aller voir le centre-ville de Lunéville qui est très joli, juste parce qu'ils seront allés à la zone commerciale qui est à 5 km. Non, ils vont repartir chez eux.
C'est les maires qui prennent ces décisions.
C'est les maires qui ne prennent pas les décisions directement, mais ils les influent énormément. Ils peuvent être contre. Le maire d'Épinal, qui n'est pas très loin de Lunéville, dit exactement l'inverse. Ils sont du même parti politique, les Républicains, tous les deux. Le maire d'Épinal dit « Je ne veux plus de zone commerciale à Épinal ». Donc c'est à lui, voilà.
Mais ils ont les pouvoirs de refuser ou de se battre.
Ils ont la possibilité de se battre. Le maire d'Épinal, il dit « Je suis contre, mais en commission nationale d'action commerciale, d'acceptation, je ne sais plus, le CNAC, je risque de perdre parce qu'en fait, c'est pas sûr. » Voilà. Donc il faut d'abord cette prise de conscience-là. Après, on peut faire plein de tas de choses. On peut évidemment nommer, c'est très à la mode, mais c'est plus qu'à la mode, nommer des managers de centre-ville qui sont chargés de... Voilà, je pense qu'il faudrait plutôt, comme le fait d'ailleurs Quimper, nommer un manager de ville, pas seulement du centre. Bon, et là, on peut avoir quelque chose éventuellement. Donc prendre conscience, mais il faut que le manager de centre-ville, il faut que les élus du maire général se disent, ben oui, il n'y a pas que l'histoire du commerce, il y a aussi l'histoire du patrimoine, aussi l'histoire des trottoirs, aussi l'histoire des transports, etc. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et puis ensuite, il faut les moyens de lutter, donc ça c'est pas évident, il faut dire non, et puis il faut aussi réorganiser sa ville, se dire, ben voilà, il y a 50 000 habitants dans la préfecture, là, à Saint-Brieuc, ils sont là. Il faut qu'effectivement ils puissent aller aux commerces qui sont pas loin et puis continuer à vivre en ville, pas seulement au commerce, mais aller trouver un emploi plus facilement. Bah donc il faut que ça soit possible d'y aller avec une poussette ou avec un enfant à tenir par la main. Il faut que ce soit agréable. Si à chaque fois qu'on traverse une place, en fait c'est pas une place mais c'est un parking, bah c'est pas très agréable. Hein, donc il vaut mieux que ce soit très agréable à traverser, qu'on puisse refaire les trottoirs, qu'on puisse passer à pied, etc. Ça c'est vraiment de l'urbanisme au quotidien. Mais il faut déjà en prendre conscience. C'est la première étape.
Le paradoxe, c'est souvent les commerçants de centre-ville se plaignent quand les voies deviennent piétonnes.
Alors, il y a une distinction à faire entre piétonisation, c'est-à-dire le fait de faire une voie piétonne, et aménagement de façon à ce qu'on puisse passer à pied. C'est pas la même chose. Dans beaucoup d'endroits, il suffit parfois d'élargir le trottoir ou tout simplement de le débarrasser des obstacles, des motos garées, des poubelles, des mobiliers urbains, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, ce qui est intéressant, effectivement, partout, vraiment presque sans exception, les commerçants à chaque fois disent « Ah mais mais il faut que les gens puissent se garer ». Alors il y a une étude qui n'est pas dans mon bouquin parce qu'elle est sortie hier et donc c'est trop tard. J'ai signé le bon à tirer ce matin, donc c'était trop tard. Mais il y en a d'autres, j'en cite d'autres, qui vont tout à fait dans le même sens. Une étude qui est parue hier à Rouen et on a demandé aux commerçants, c'est tout simple, on a demandé aux commerçants, à votre avis, qu'est-ce qui manque pour que vos commerces marchent bien ? Et ils ont tous dit « du stationnement, il faut qu'il y ait du stationnement ». Très bien. On a demandé aux clients « qu'est-ce qui manque pour que vous ayez envie d'aller dans les commerces ?» Un peu ont répondu « il faut du stationnement ». Mais la plupart ont dit « il faut qu'il y ait moins de bruit, moins de circulation, moins d'obstacles sur les trottoirs ». Donc exactement l'inverse. Donc on peut tout vouloir en même temps, mais ce n'est pas possible. Et donc effectivement, ce que disent les spécialistes du commerce, c'est systématiquement que la ville doit redevenir un espace public de qualité. C'est une expression qui est régulièrement utilisée. Un espace public de qualité, ce n'est pas un parking. Un espace public de qualité, c'est pas une rue dans laquelle les trottoirs sont tellement minuscules, comme j'en ai vu à Brive-la-Gaillarde, qu'il n'est même pas possible de s'arrêter. Quand on est à deux et qu'on doit se croiser, il faut qu'il y ait forcément une personne qui descende sur la chaussée, et donc il faut le faire, évidemment, quand il n'y a pas de voiture qui passe. Et donc, du coup, c'est pas agréable, on ne s'arrête pas et on n'a pas envie d'aller au commerce à côté, évidemment. Quoi. Mais ça, il faut, effectivement, c'est une énorme pédagogie à l'égard des commerçants, une énorme discussion à faire, parce que une des raisons pour laquelle ils disent ça, c'est que la personne qui n'a pas pu trouver de stationnement qui est arrivée en voiture va dire, arriver dans la crèmerie, il va dire « quel scandale, j'ai pas pu me garer ». La personne qui est arrivée à pied va pas dire quelque chose, c'est pas une aventure qu'il a vécue, il s'en fiche, il va juste acheter du fromage et puis c'est tout.
Et est-ce qu'il y a des études qui montreraient que les piétonnisations, ça n'a pas baissé le nombre de clients dans les commerces ?
Alors, attention, là encore, avec cette histoire de piétonnisation, ouais. C'est pas nécessairement la piétonnisation. Il y a bien sûr des rues piétonnes dans chacune des villes.
Ou le fait qu'on ait enlevé du stationnement
devant
les...
Mais, oui, il y a plein d'études, mais il y en a une vingtaine qui disent toutes... que d'une part, il suffit de regarder les villes comme elles sont aujourd'hui. Hein, c'est sûr que les commerces de Strasbourg se portent beaucoup mieux que ceux de Mulhouse. Mmh. C'est tout. Ouais. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que ce n'est pas quand on est en voiture qu'on consomme le plus. En fait, c'est quand on est à pied, soit qu'on est déjà dans la ville, tout simplement, parce qu'on est venu... effectivement en voiture et qu'on agresse sa voiture et qu'ensuite on se déplace à pied, tout simplement. Il ne s'agit pas de bannir, personne ne pense à bannir la voiture du centre-ville. C'est juste dire la priorité, elle est pour les piétons, donc il faut qu'il y ait des parkings qui ne soient pas non plus sous la place de l'hôtel de ville, parce que là, il va y avoir de l'approche qui va être compliquée, mais par contre, qu'ils soient un peu plus loin, où les gens peuvent se garer s'ils viennent d'un peu plus loin, mais qu'après, effectivement, la priorité soit faite pour les piétons. Et là, toutes les études le montrent. Il y a des études, il y en a qui ont été faites en France, mais il y en a qui ont été faites aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, à Dublin, je ne les cite pas toutes. Mais...
On va conclure.
On va conclure.
Je voulais juste citer, je suis tombé sur un article sur Internet d'une dame qui s'appelle Pascal Solana et qui dit « Le vélo est l'arme tranquille de la révolution écologique ». Je pense que vous vous retrouvez dans ce genre de citation.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, écologique, et puis j'irais même, en l'occurrence, économique.
Parce que une ville qui est traversée par des cyclistes, c'est aussi une ville qui fait revivre aussi ses petits commerces.
Alors, oui. Et puis,
ce n'est pas la solution,
autre chose,
en fait, c'en est une petite.
C'est une solution, mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'associations de cyclistes dans toutes les villes. Il y en a une à Bourges qui est vraiment exceptionnelle, qui constate ce phénomène et qui, tout simplement, parce qu'on est, quand on est à vélo, on voit tout. Et donc, on voit à la fois les endroits où c'est facile de passer, où on a envie d'aller, etc. Et donc, on a évidemment des manières de faire, peut-être que Simon confirmera après, mais des manières de faire et notamment de consommer qui ne sont pas les mêmes. Et donc, les associations de cyclistes, une partie des associations de cyclistes, notamment à Bourges et à Nantes, commencent à s'intéresser beaucoup à cette histoire de ville et font vraiment des actions. L'association de Bourges fait partie maintenant de la fameuse commission départementale. Ils ont demandé, ils en font partie parce qu'ils disent qu'il y a un problème, il faut qu'on ait partie prenante dans l'affaire.
Et ça nous fera une transition tout trouvée avec notre prochain sujet, puisqu'on recevra Siméon dans quelques minutes. Exactement. C'est ça, hein, qui va nous parler d'un grand voyage à vélo, 18 000 km ?
18 000 km à vélo, oui.
Très bien. Eh bien, merci. Il est après 21h passé, on est toujours Fréquence Paris Pluriel, oui. Et on va recevoir Nelly, qui va peut-être prendre la place de Déborah et le casque. Bonjour Nelly, qui est la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Midnight Colors. Color ou Colors ?
Colors.
Colors, parce qu'on a plein de couleurs. Et on a aussi Arnaud qui est dans les studios avec nous, tout au fond. Bonjour Arnaud. Tu peux te rapprocher peut-être un peu du micro. Alors c'est une rencontre dans les bars de Belleville, c'est ça, entre pas très loin d'ici, puisqu'on est en 19e, entre Nelly, chanteuse camerounaise installée en France, et Arnaud Fournier, pianiste et compositeur normand.
Voilà.
Voilà, ça c'est fait. Donc une rencontre comme ça dans un bar à Belleville, c'est quand même la magie de Belleville.
Exactement.
Et puis une rencontre musicale ou une rencontre de bar, une rencontre de discussion, est-ce que l'un de vous jouait dans ce bar?
Mais l'un ou... va pas sans l'autre.
Là-bas. D'accord, non, cette première, oui, l'un, d'accord. Donc, et du coup l'envie de composer ensemble.
Bah, ça,
et donc
c'est...
la naissance, ouais, d'un petit
exactement.
EP.
Tout à fait, tout à fait. Ça s'est créé au fur et à mesure. On a expérimenté plusieurs choses ensemble, parce qu'on avait l'opportunité de jouer comme ça, pendant des jam sessions, et on a eu l'envie ensuite d'aller un peu plus loin, de proposer quelque chose de différent.
D'accord, alors on a écouté un premier titre tout à l'heure en version CD, on va écouter une petite version live là juste après, on a écouté un extrait d'un 4 titres, c'est votre premier 4 titres du coup ?
Oui.
Qui vient de sortir ?
En fait, on avait fait un 5 titres l'année d'avant qui était autoproduit.
D'accord.
Et désormais, on est soutenu par le label 18h48.
D'accord.
Qui a donc produit ce 4 titres, qui reprend des anciens morceaux mais qui ont été remixés, un peu améliorés, tout ça, et qui programme des concerts.
D'accord.
Notamment,
donc,
on est le 18 novembre au ZEP de Belleville.
Ok, très bien.
Billetterie Fnac et compagnie.
C'est parfait, j'allais l'annoncer, on en reparlera en fin d'émission. Nelly, tu vas nous chanter quelle chanson ?
Ce soir, ce sera Here I Am.
Here I Am ?
Tout à fait.
D'accord. Alors, ça parle de quoi, en fait, cette chanson et puis les chansons en général ?
Alors, sur cette première proposition qu'on a faite avec Arnaud, l'intention, en fait, c'était de raconter un peu la position psychologique dans laquelle j'étais à un moment particulier. Et Here I Am, notamment, parle de la position à laquelle je me sens, en fait, vis-à-vis d'une relation qui se termine et d'une relation qui commence, mais qui n'avance pas vraiment.
Alors, elle se commence ou elle termine ?
Elle se commence, elle se termine en même temps. Elle n'a jamais vraiment commencé. Elle a commencé dans ma tête. Elle a commencé dans ma tête. Et moi, j'ai commencé une histoire et j'attendais du répondant.
On va aller boire un verre après pour en savoir un peu plus.
Exactement. Et j'attendais du répondant en face. Et voilà, ça explique un peu ça. Et
donc, une période d'incertitude, de doute, d'attente.
Exactement.
De dialogue difficile ou...
Exactement, et d'introspection aussi, pour aller puiser un peu au fond de moi-même ce que je peux proposer pour changer de bord. Et Arnaud était là pour m'accompagner en musique là-dessus.
D'accord, compositeur et pianiste.
Exactement.
D'accord. Et en live, c'est quels instruments ?
En live, on a la batterie, la basse, la guitare, les claviers, le chant. Et pour le Zèbre, on aura aussi les choristes et des invités.
D'accord. Une belle date, alors 18 novembre.
On a déjà quelques vidéos sur Facebook, tout ça, YouTube, d'un live du mois de juin.
Oui.
Il y a deux extraits.
On va donner sur Facebook, on trouve...
C'est Midnight Colors, la page.
D'accord, voilà. Très bien. Nelly, tu te sens prête à chanter ? T'entends dans le casque ?
J'entends très bien, oui.
On attend la... Voilà, il va y avoir une bande-son. Ce concert, vous avez fait aussi un concert juste avant l'été
Oui, à la Dame de Canton.
À la Dame de Canton.
Et puis on a fait Péniche Antipode et deux, trois choses comme ça.
Les petites salles parisiennes. Et des dates aussi en province de prévu ?
Pour l'instant, ça vient doucement, mais on ne peut rien annoncer.
D'accord, ok. Est-ce qu'on est prêt à la technique à envoyer la bande-son ? Ça ne marche pas ? Hein ? Quel morceau ? Ah, non,
c'est ça.
You came to me one day, telling me your stories. You said you wanted to hold my hand and walk that walk. So I followed with my heart, 'cause I thought you could read my soul. So here I am, So here I am. People say the truth lies in the eyes. I know my soul is there and never lies. So I thought you got the messages from the glance. Now I wonder, what do you see? What do you see when you look into my eyes, my dear? So here I am.
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 Opening myself to you was my first mistake. Giving you everything I got was so naive. Now I only have my eyes to cry those tears. Now that I follow you to a land with my heart. So here I am. To people I don't know. So here I am, like a crazy woman. So here I am, loving you with no regrets, 'cause I don't care. So here I am.
Here I am.
So here I am.
Here I am.
C'était Midnight Color, donc sur Zoom Écologie. Arnaud, vous avez trouvé une voix magnifique, là.
Oui, oui, on s'est trouvé.
J'allais dire aussi dans l'autre sens, mais bravo, formidable. Et puis un exercice pas très facile quand même de jouer sur une bande-son comme ça,
oui,
on s'entend pas très bien. Mais là, on a été tout de suite dans le...
Vous avez senti l'énergie
et tout ça, c'est génial. Donc c'est Midnight Colors, on trouve la page assez facilement hein, sur Internet. Et on vous donne rendez-vous le 18 novembre au Zeb de Belleville. Bah, voilà.
Tout à fait.
Je crois que j'y serai.
C'est mieux en vrai.
Bah, c'était déjà très bien. Et sur le disque, c'est très bien aussi, parce que je l'ai beaucoup écouté cette semaine. Et voilà, c'est super. Il est sorti, le disque, on peut se le procurer?
Oui, bien sûr. Bah, en téléchargement.
OK.
Il n'y a pas de sortie physique,
sur
mais
les
téléchargement, streaming
okay.
Habituel.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Merci à vous.
Pour l'invitation.
Merci.
Bonjour, Siméon.
Bonjour.
Siméon.
Oui,
exactement. Okay. Alors, Siméon, vous, avec votre cousin Alexandre, vous avez décidé, à la fin de vos études, de partir faire le tour du monde en vélo, voilà, qui va plaire à Olivier, qui est encore avec nous. Et vous avez fait 18 000 km, 26 pays. Et vous êtes parti avec l'idée, est-ce que vous êtes parti avec l'idée de départ de faire, d'aller à la rencontre des initiatives locales et écologiques des pays que vous alliez traverser déjà? Parce que c'est finalement ce qui s'est passé à la fin de votre séjour, c'est un film. Est-ce que c'était un objectif de départ?
Alors, c'était un objectif de départ, mais il a été un peu changé au fur et à mesure du périple. Ça veut dire que tous les deux, on étudiait. Mon cousin était en école de commerce, moi en école d'ingénieur. Donc, autant dire qu'on avait en idée des grands projets, en fait. On voyait le dérèglement climatique. On entendait tout le temps parlé et on se disait comment est-ce qu'on va trouver des solutions à ça. Et on voyait quand même des solutions, je sais pas, à l'échelle de pays.
Donc vous étiez plutôt parti pour découvrir des grands projets, en fait.
Voilà, mais on s'était dit, par contre, on va les découvrir sur le terrain, comme ça, en partant et en sachant pas ce qu'on va découvrir.
D'accord.
En partant à vélo et on va voir ce qu'on va trouver sur le terrain.
Ah, c'est drôle.
Vous n'avez pas fait une présélection d'initiatives déjà qui vous intéressaient, vous n'avez pas fait de repérage, entre guillemets.
Alors non, pas du tout. On fonctionne pas mal comme ça, on avait l'habitude de voyager en stop et... Le stop, ça apprend ça, c'est un petit peu le hasard de... On ne sait jamais sur qui on va tomber. On peut retrouver la même chose à vélo.
Pour faire rêver un peu nos auditeurs, vous êtes parti d'Europe, vous avez fait pas mal l'Europe de l'Est jusqu'à la Turquie. Ouais. Vous êtes passé en Inde, jusqu'au Vietnam. Là, vous avez passé le Pacifique.
L'Asie centrale, l'Inde, ouais.
C'est ça. Et puis, donc voilà, ensuite Vietnam, Cambodge. Et puis, vous avez traversé le Pacifique et vous avez été, je déteste le terme de faire un pays. Vous avez été au Pérou et au Brésil.
Pérou, Bolivie, Paraguay et Brésil, ouais.
Voilà.
Une petite montée des Andes au passage.
D'accord. Et tout ce trajet était donc un peu anticipé quand même ou
En large. On se disait à peu près on va passer par ces routes. Je m'étais fait des impressions Google Maps et puis.
D'accord.
Voilà.
Il y a quand même des visas à prévoir ou pas du tout ?
Des visas à prévoir, ouais.
D'accord.
Des visas, quelques vaccins, mais on savait les zones, on ne savait pas exactement les endroits.
D'accord. Pourquoi le vélo ?
Le vélo, alors au début on s'est dit ça va changer du stop, ça nous fera faire un peu de sport. C'était écologique, donc on était cohérent, c'était assez économique et ça permettait la rencontre de la même manière que le stop. C'est-à-dire que quand on est sur un vélo, on n'a pas de, il n'y a pas de limite physique entre nous, il n'y a pas de pare-brise, quoi. Donc ça, c'est important et donc on allait directement à la rencontre.
Est-ce que ça vous a donné envie de continuer en vélo ou de reprendre la randonnée ?
Alors vélo, stop, maintenant j'aime un peu tout tant que ça me permet d'aller rencontrer les gens.
D'accord. Comment ces rencontres se sont faites ? Donc vous avez fait beaucoup de rencontres par hasard, mais est-ce que vous aviez un petit peu anticipé des choses ou entendu parler d'initiatives dont il fallait aller à la rencontre ou
Alors, en général, c'était vraiment au hasard. On disait juste voilà, on arrive, on est deux Français, on fait un tour du monde à vélo et on vient chercher des initiatives écologiques. Donc on se renseignait un peu sur les pays, on discutait. Donc on avait deux trois thèmes comme ça où on savait que c'était fort, c'était prégnant dans le pays. Et après, on a eu des rencontres autant de paysans, d'activistes ou de ministres aussi. Enfin, ça c'est vraiment... Voilà, ça c'était des hasards et un petit peu pas mal de culot aussi.
Ouais.
Et ça se faisait assez bien.
Vous aviez prévu de partir pour 18 mois ou la durée s'est fait...
Pour 14 mois, c'était... D'accord. Alors on avait 12 mois et on a rallongé au maximum. Mon cousin devait en rentrer pour... il était en année de césure.
D'accord.
Donc on est rentré, le lendemain il a repris il a dû réenfiler un costume, c'était pas facile.
D'accord.
Raser un peu la barbe, voilà.
Et donc vous avez réalisé un film, est-ce que le fait d'avoir du matériel comme ça, audiovisuel, une caméra avec vous, ça a été parfois un frein pour aller à la rencontre des gens ? Est-ce que ça a été une difficulté ou au contraire l'occasion de créer quelque chose, une rencontre ou...
Alors ça aussi, c'était un avantage, c'est qu'on savait pas du tout non plus. Alors on n'avait jamais fait de grand voyage à vélo et on savait pas non plus se servir du matériel audiovisuel. Enfin, on connaissait vraiment rien là-dedans. Donc on est parti, on avait un appareil photo qui fait caméra haute définition et c'était notre. On avait une petite GoPro avec un micro et on avait vraiment très très peu de matériel. Donc très peu de choses à se faire voler, ce qui fait peu de risques, peu de peur. Et en plus, dans les interviews, il n'y avait pas de grande distance. Et puis, on n'était que deux, on n'était pas avec une grosse équipe. Donc, on était tout de suite en confiance et il y avait très, très peu de distance avec les personnes.
Et très vite, c'était facile, du coup, de passer à un mode interview ?
Voilà, on passait facilement. Pour moi, les
gens iraient
des discussions. Et c'est vrai que quand on est avec un paysan, on ne va pas arriver avec une grosse équipe, la personne.
Oui, mais on commence par discuter. Et puis, après, à un moment donné, vous sortez quand même l'appareil photo.
C'est ça.
Ça se passe naturellement ou...
Ça se passe assez naturellement, où les personnes savaient déjà, mais on se posait avec la caméra. Mais ça restait une discussion assez cordiale. Et comme ça nous permettait d'aller voir ce qu'il y avait derrière ce que faisait la personne. C'est-à-dire que souvent, un paysan, on le prend un peu pour un bouseux ou j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est assez facile de se dire ça. En fait, quand on regarde derrière ce qu'il fait, la philosophie qu'il met derrière, elle est simple, mais elle est puissante.
D'accord. Un exemple, par exemple ?
Des paysans qui nous disaient qu'ils étaient passés au bio en Asie du Sud-Est. Pour moi, le bio, c'était encore un petit truc un peu de bobo. Et je me disais, bon, j'avais moi jamais consommé bio. Et... Et là, j'ai vu le paysan qui nous disait « Ouais, on fait ça, on a toujours fait ça. » Il nous expliquait les causes aussi, les maladies, pourquoi, et l'endettement, pourquoi ils étaient venus au bio finalement. Il nous disait « C'est peut-être plus dur, ça nous fatigue plus, mais qu'est-ce qu'on est plus heureux d'être près de la Terre, là, d'être connecté à nouveau.
Vous avez fait une rencontre avec l'écologie, en fait,
exactement,
dans ce voyage, tout voilà. Simplement. Ouais.
On en était assez loin au départ.
Bah, c'est ça, parce que vous dites sur votre site que votre vision a changé quand même pendant ce voyage.
Donc, exactement.
J'allais vous poser la question pourquoi elle a changé, mais en fait, je viens de comprendre.
C'est, bah, que c'est à la rencontre des gens, et forcément, quand on voit le terrain, quand on voit les déchets qui s'accumulent, et des gens qui se mettent à l'action aussi, ou sur plein d'autres sujets, la déforestation aussi, à un moment, on ne peut pas rester et se dire non, se voiler la face là-dessus. À un moment, on est obligé de se dire mais l'écologie, ce n'est pas du tout un luxe, c'est juste une réalité de terrain. Il y a des gens derrière. À partir de là, c'est pour ça qu'on a voulu autant après. Diffuser, enfin faire le documentaire, ouais. Le diffuser, parce qu'on voulait vraiment montrer les réalités de terrain et le montrer aussi aux personnes. C'est ce qu'on s'évertue à faire un maximum, c'est d'aller le montrer aux personnes qui se fichent totalement de l'écologie. Moi, je suis heureux si je le montre à un climato-sceptique, parce que je sais qu'il va un petit peu réviser sa position derrière.
D'accord.
Donc, parce que ça,
vous en avez fait l'expérience déjà Enfin, oui. Le film a déjà été diffusé un peu. On parlera tout à l'heure de comment il est diffusé, d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de le montrer à un climato-sceptique ou quelqu'un qui a d'autres préoccupations que l'écologie et l'environnement? Alors, et de voir un peu la réaction que ça peut provoquer?
Oui, tout à fait. Ouais. Plusieurs fois, des personnes où vraiment, j'aurais pas pensé qu'elles allaient en sortir et me dire « Waouh, j'étais bluffé, je pensais pas découvrir tout ça. » Et c'est chouette et ça recoupe ce que je pense, en plus. C'est ce qui est étonnant, c'est que... Voilà, parce que c'est des gens qui peuvent contester le dérèglement climatique, l'influence humaine, mais quand on parle de déchets, quand on parle de déforestation, là, ils se disent non. Et en fait, tout se recoupe, donc... Et oui, souvent, alors, par exemple, on le projette dans des petits villages, par exemple, et là, il y a des personnes qui sont pas du tout liées à l'écologie, qui sont plutôt des paysans, par exemple, qui peuvent être même un peu remontés face aux écologistes. Et en sortant de là, on a des gros débats, mais on en vient à être d'accord finalement sur pas mal de points.
D'accord.
Et pareil dans des écoles, dans des EP, là, des réactions assez étonnantes. Là, les élèves sont totalement d'accord et disent « mais allons-y, quoi ».
Ouais. Donc c'est un film stimulant.
Stimulant, ouais.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait beaucoup d'heures de film, j'imagine, et combien d'heures de rush à la fin de ce voyage?
Ah, c'était affreux. C'était 140 heures de rush. J'ai mis 4 mois à regarder tout ça.
Ouais.
Et à noter sur des petits papiers.
C'est vous qui avez fait le montage?
La réalisation, le montage, j'ai eu des gens qui m'ont aidé.
D'accord. Oui, il y a 6 monteurs qui ont travaillé dessus.
C'était un peu rocambolesque.
Content, vous êtes fiers du résultat. C'est un film de 90 minutes, du coup, que vous diffusez.
80.
80, d'accord. Ouais. 80 minutes. D'accord.
Et on le diffuse et le résultat est très, très sympa. On a réussi à rendre ce qu'on avait vu sur le terrain.
Mais peut-être, on pourrait peut-être vous écouter sur des initiatives qui ont particulièrement intéressé. Qu'est-ce que vous retenez de vraiment fort pendant tout ce voyage? Qu'est-ce qui vous a vraiment percuté?
Alors moi, je me rappelle, je parlais de la déforestation, je me rappelle d'un paysan, d'un mouvement de paysans sans terre en Bolivie, l'ex-président du mouvement pour le pays, qui nous disait, alors il faut savoir que c'est des paysans qui arrivent et qui... Ils ont beaucoup de considérations sociales, mais par contre, tout ce qui est environnemental, bah, ça vient derrière, en fait, parce qu'ils arrivent, ils déforestent une zone pour s'installer. Et lui, il nous expliquait, j'ai fait ça il y a 20 ans, mais maintenant, si c'était à refaire, je déforesterais pas. Et maintenant, je suis en train de reforester parce que mes vaches ne peuvent plus paître, j'ai plus rien qui pousse, la terre, là, comme ça, c'est dans les zones amazoniennes, il y a 5 cm de terre et ensuite, c'est la rocaille, donc tout est parti et j'ai plus rien. Et ça, qu'ils nous disent, bah, j'ai fait une erreur, ça, je pense que c'est un des plus forts témoignages, finalement, à quelqu'un comme ça, d'assez fort et d'assez... qui a de la gouaille un petit peu, et qui nous dit ça de manière très simple, c'était assez hallucinant. Et après, ouais...
On a envie d'écouter d'autres exemples. Hein. On a envie de voyager un peu.
Exactement.
Une autre rencontre. Allez, comme ça. Ouais, une autre.
Un orchestre cyclé qu'on a vu au Paraguay, dans une petite zone d'Asuncion, une zone construite sur une ancienne décharge, mmh. où les gens vivent donc dans les poubelles, quoi. Enfin, on arrive, ça pue vraiment, c'est assez affreux. Et là, nous, on est arrivés, les gens ont l'habitude de vivre dedans, sauf que c'est une zone très très dangereuse aussi socialement. Enfin, tout le monde me disait, sors avec ton appareil photo. Et donc, des enfants qui voulaient apprendre à jouer de la musique ne pouvaient pas parce qu'ils pouvaient se faire voler leurs instruments ou même par le grand frère qui a besoin de crack et voilà, qui Et ça arrivait assez souvent. Et donc, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée de, qui travaille dans la décharge, de faire des instruments avec ses, avec les déchets. Et donc, il y a tout un orchestre qui est né grâce à des déchets. Et donc, et maintenant, leur leitmotiv, ils sont connus dans tout le pays. Ils disent, bah, vous nous donnez des déchets, nous, on vous les rend en musique.
D'accord. Et vous avez eu l'occasion de l'écouter, cet orchestre, alors ça,
ouais, ouais, mais il fait des tournées. C'est de l'instrument de... l'orchestre d'instruments recyclés de Kateola.
D'accord.
Et maintenant, il fait des tournées dans le monde entier. Et c'est chouette ce qu'ils font. Ouais.
D'accord. On voyait des vidéos sur Internet pour voir ça ?
Il y a des vidéos, ouais.
Ouais, ouais,
si vous te... je crois que c'est Landfill Harmonix, je crois.
D'accord. Quel... on a toujours...
Moi, j'ai une question. Le vélo... est-ce qu'il a partout, puisque vous y avez l'eau tout le temps, enfin pas, peut-être pas tout le temps, peut-être pas pour traverser le Pacifique,
très
mais est-ce qu'il a un capital sympathie partout et de la même manière, ou est-ce que c'est différent ? Est-ce que le regard qui est porté sur le vélo est différent dans les différents pays ?
Bah, y a toujours un capital sympathie parce qu'on arrive avec notre fatigue. Enfin, on voyait que nous, on arrivait de loin, on avait nos sacoches, on était un peu sales, on savait qu'on arrivait de loin. Faut être honnête.
Oui, c'est pas juste comme monter du 10e comme je viens de le faire et arriver dans le 19e. Ça, c'est facile à vélo. Mais...
voilà, oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce capital sympathie parce qu'on arrive et qu'on fait l'effort. C'était vraiment le fait de faire l'effort d'arriver auprès des gens simplement. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où le vélo est plus populaire ou les moins. Et nous, on a
où est-ce qu'il est plus populaire, justement ?
En Asie du Sud-Est, il est très utilisé. En Inde, il est très utilisé, mais alors là, il y a toute une chose par rapport à le vélo et le plus bas des castes par rapport aux voitures. Et donc, nous, c'était, il fallait être bien, bien, bien en forme pour tenir sa ligne sur une route et pour pas être envoyé dans le fossé. Et il y a des pays en Amérique du Sud, par exemple, là, il est beaucoup moins utilisé. C'est-à-dire que c'est des très, très grandes étendues, donc on l'utilise pas entre deux vides, ça, c'est évident. Et même dans les villes, là, par contre, on retrouvait on en est encore à cette évolution où on est à toujours plus de voitures là-bas. On construit plus, on enlève les arbres. On a eu ça dans la ville de Santa Cruz en Bolivie, où il y avait quelques irréductibles militants qui se battaient pour garder quelques arbres dans la ville. Et pour garder des zones cyclables dans la ville, parce que sinon c'est une ville qui a 5 anneaux de périphérique, voilà. Et la ville est construite comme ça que pour les voitures. Et c'est l'exemple de Miami, un peu, ils ont un peu ce rêve américain. Et c'est pas évident, ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire, un retournement là-dessus.
Une grosse galère à nous raconter ?
Il y en a eu quelques-unes, mais à chaque fois, c'était des belles expériences derrière. Je pense à... en Amérique du Sud, dans les Andes, une nuit, on savait plus du tout où dormir et tout le monde nous avait dit on nous disait que le prochain village, ça oscillait entre 30 km et 120 km entre les personnes à qui on demandait. Et on se disait, on va dormir sur un haut plateau. On était à 4200 mètres d'altitude, donc il faisait très froid. On savait que la tente suffirait pas à nous abriter. Et on s'est dit, bon, bah, et puis surtout, c'était pierreux de partout. Enfin, on savait pas du tout comment on allait faire. Et finalement, on voit la nuit tomber, et là, on arrive sur un village qui était totalement improbable. Et on a dormi, on trouvait vraiment pas où dormir non plus dans le village, pas une école, pas un... Et on a dormi dans un poulailler duquel ils avaient enlevé les poules, mais il restait un petit cochon d'Inde. On s'est fait un lit avec des planches et on a dormi au moins entre quatre murs.
D'accord. Vous avez... ouais.
C'était tout le temps un peu ça, c'était après les galères, on avait des moments, et là, c'était un moment génial, c'est un moment drôle.
Ouais, qui se termine bien. Et ouais. Du coup, vous avez beaucoup dormi chez l'habitant ou plutôt
très très souvent, trois quarts du temps.
Ah oui.
Et au Moyen-Orient, c'était tous les soirs.
Ah oui. Parce qu'il y a une hospitalité.
Une culture de l'accueil qui est hallucinante. Ouais, les gens nous disaient venez à la maison.
Ah oui.
Dû au vélo aussi, mais dû au fait qu'on est voyageur et qu'on vient de loin, et dû à leur culture aussi très ancienne de l'accueil du voyageur.
C'était D'accord. Quel pays en particulier au Moyen-Orient ?
L'Iran, okay. C'était génial comme pays.
Ah oui. Donc l'Iran, c'est à conseiller comme destination à vélo, quoi.
Ah ouais.
Et puis on pourrait conseiller aux gens d'Europe d'essayer d'accueillir avec autant d'esprit d'accueil les gens qui viennent du Moyen-Orient, peut-être, non ?
Ça serait chouette, ouais. Parce que eux, ils ont vraiment, vraiment cette culture d'accueil, et quand on l'a pas en retour, ils comprennent pas forcément. En plus, c'est eux, pour eux, un étranger, quand on est dans une bonne situation, quand on a à manger, quand on accueille l'étranger, quoi. C'est évident. C'est eux, ils le font directement, quoi. C'est un réflexe, c'est quelque chose, c'est presque social. Si on n'accueille pas l'étranger, le voisin, il va nous regarder même bizarrement. Mais il y a quelque chose de... C'est normal d'accueillir l'étranger.
C'est un beau message.
C'est un très beau message. Ouais. Alors, vous avez donc extrait de cette très belle aventure, un film de 80 minutes, que vous essayez de diffuser le plus possible, avec un mode de diffusion un peu particulier, c'est que vous appelez le grand public à diffuser avec des vidéoprojecteurs en... Je sais pas comment ça s'appelle ce mode de diffusion. Vous avez un nom sur le site, je me souviens plus.
Le cycloprojecteur. Alors c'est pas notre unique moyen de projection. En fait, l'idée c'est qu'on veut toujours faire des projections collaboratives, c'est-à-dire qu'on collabore toujours avec quelqu'un de local. On a appris que le changement viendrait vraiment du local pendant ce voyage. Donc on veut toujours favoriser ce fonctionnement toujours de pair à pair en quelque sorte à petite échelle. Et donc favoriser les associations locales pour qu'elles puissent aussi inviter des gens, se faire connaître, organiser une projection et donc faire connaître un peu plus l'écologie. Et donc on se met d'accord, on travaille ensemble un petit peu, il suffit de trouver une salle, un public, de communiquer un petit peu et de nous faire venir et ça fonctionne assez bien. Donc on a des projections comme ça à toute échelle.
L'idée c'est que vous y soyez à chaque fois du coup ?
Alors pas tout le temps, mais là c'était beaucoup le cas au début. Mmh. Et de plus en plus, on aimerait bien que les personnes aussi, qu'il y ait un débat qui se génère d'emblée derrière le film en fait.
D'accord.
On ne pourra pas être partout non plus.
Et quel genre de débat ça suscite ? Est-ce que les gens posent les mêmes questions que nous ou est-ce que, qu'est-ce que...
Alors les débats, ça dépend énormément des publics en fait. Je peux avoir des soirées où les gens posent des questions quasiment que sur le voyage, quand c'est des plus jeunes très souvent... Ils ont déjà eu une grosse dose d'écologie, des choses comme ça, ou comment on peut partir, est-ce que c'est pas trop difficile au niveau des parents, au niveau de, voilà, des choses simples, mais parce que aussi ils ont envie d'aller découvrir le monde, ils ont envie d'aller au bout de leur projet, comment on monte un projet pareil, est-ce qu'il faut trouver des sponsors, comment on convainc les gens, enfin des choses comme ça, et après on peut partir très très loin aussi sur l'écologie, sur des débats sur comment on peut faire en tant que paysan, par exemple, pour changer ça en France. Et après, plus des réflexions aussi spirituelles, comment on se change intérieurement pour amener tout ce changement plus large dans le monde.
D'accord. On va... Okay,
Ouais.
Le projet, ça s'appelle On the Green Road. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. En tout cas, le site, c'est onthegreenroad.com.
Exactement. Et c'est par ce moyen que vous pouvez organiser votre projection. En fait, en allant, il y a un petit formulaire dessus et vous nous envoyez ça et on répond très, très rapidement. On est toute une petite équipe, en fait, derrière.
D'accord.
À gérer toutes les projections. On gère aussi des expos photos pour sensibiliser aussi. Et des quelques conférences et les cycloprojections qui sont les petites dernières. Donc c'est quelqu'un dans l'association qui a développé ça, un système pour pouvoir projeter en pédalant. Donc il suffit d'avoir un vélo, un drap, et nous on apporte le cycloprojecteur, toute la dynamo, et on peut faire toute la projection en...
Avec quelqu'un qui pédale.
Exactement, ce qui est assez cohérent.
Il y a deux vélos, c'est ça ? Il y a deux vélos ?
Alors là, il n'y en a qu'un seul, mais on aimerait bien en développer un seul, d'accord. Ça ferait plus d'énergie.
Parce que j'ai pédalé une fois à Nuit Debout, comme ça, pour voir un film.
Mais c'était le nôtre ?
Ah bah voilà.
Mais c'était Vélorussion qui développait les choses.
C'est beau. Olivier Razement a donc pédalé pour voir le film de Jour.com. Et alors comment vous avez géré votre retour quand même rapidement là, parce que on revient pas d'un voyage comme ça complètement.
Alors
on
le
revient
retour,
pas à un métier d'ingénieur classique, j'imagine quand même.
Non, justement, je me consacre totalement à diffuser le documentaire parce que avant je me disais ok bon je vais pouvoir faire changer les choses un petit peu en améliorant l'efficacité des systèmes et maintenant je me dis non faut vraiment sensibiliser plus largement et que tout le monde soit un peu au courant de ce qui se passe, de l'impact en fait de ce qu'on fait et de comment on peut changer les choses. Donc ça a été vraiment le retour vivre de manière un peu plus gitane, c'est-à-dire que mon moyen de financement principal et de pas avoir de logement, ce qui est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Et voilà. Par contre, après, ça a été vraiment d'aller jusqu'au bout du documentaire, alors que j'avais pas du tout ce métier, et maintenant de diffuser, de faire confiance aussi à cette manière collaborative pour le diffuser. Et bientôt là, à l'international, enfin, on a pas mal d'idées. Là, on veut aussi diffuser le film international. C'est le développement futur. Et conseiller d'autres projets, en fait, on accompagne d'autres voyageurs qui partent sur des sujets environnementaux ou sociétaux.
D'accord.
Pour qu'ils puissent faire un film en retour et partager. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de ces petits médias citoyens, des gens qui partagent.
Eh ben, on va conclure là-dessus, Déborah.
Oui, tout à fait. Ben, c'était deux beaux témoignages autour du vélo, donc ça nous a fait voyager. C'était bien.
Merci Olivier Razon.
Merci beaucoup.
Merci. Siméon.
Moi, en tant qu'ancien ingénieur, c'était génial d'entendre toutes ces choses sur l'urbanisme. Ah c'est toujours un sujet qui me passionne.
Bah voilà, vital. Moi aussi j'ai appris quelque chose, donc voilà, c'est très bien.
Merci à tous.
Merci à Nico qui était à la technique. On va se quitter en écoutant un autre titre de Midnight Colors qu'on a reçu en milieu d'émission. Je rappelle que l'émission est rediffusée le mercredi à 8h et qu'elle est disponible sur internet sur zoom-ecologie.net et qu'on se retrouvera le troisième jeudi du mois d'octobre. Ado ? La 2 ? Ouais, la 2. Allez, la 2. Donc on écoute un titre de Midnight Colors qui s'appelle The Reach to Myself. Voilà, merci, c'était Zoom Ecologie.
I always feel so blue. Took a look at my life, then I don't have a clue. Most of the time I try hard to hide my pain. Beneath my makeup, you find some tracks of tears. So I go wandering around, always asking questions I can't seem to find answers. I keep looking for myself. I kept looking for myself on the road to myself.
Why? Yourself.